Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Tout le monde est bienvenu à votre heure d'information, de geekness, de jeux de société et de jeux de rôle. Je m'appelle Alexandre Bélanger, je suis l'animateur et je suis joint cette semaine par deux comparses habituels et un nouveau. Bonjour P.O. Dupont, comment ça va?
Bonjour, ça va très bien toi?
Ça va bien. Écoute P.O., aujourd'hui on t'a invité parce qu'on va parler de Twilight Imperium en fin d'émission. Twilight Imperium, un gros jeu qui se passe de présentation et en mérite quand même. Fait qu'on va y revenir en fin d'émission. Mais on va commencer avec Nathan et Hugo, mes complices habituels. Comment ça va les boys?
Ça va bien toi?
Ça va bien, Hugo?
Ça va toujours très bien, toujours content de vous voir.
Bon, super ça. Cette semaine, on va parler de... On a une chronique du garage, on a une chronique sur les changements là, dans notre super édition de Donjons et Dragons, et on va terminer avec Twilight Imperium. Moi, j'ai pas de nouvelles particulières pour vous cette semaine. Il y avait les championnats mondiaux de Board Game à Vegas qui ont terminé il y a deux semaines. J'ai commencé à regarder ça. Les jeux sont déjà annoncés pour l'année prochaine, mais je trouve que c'est en perte de vitesse. Il n'y a presque pas de gens qui regardent les finales sur YouTube. C'est Dice Tower qui organise ça et je pense que ça pourrait mériter un petit peu plus de marketing. Mais sinon, c'était pas mal la grosse affaire qui m'a marqué. Puis, c'était le spiel, les SN la semaine passée. Fait que si vous avez des amis, vous êtes sur des groupes Facebook, vous avez sûrement vu des gens qui sont allés se ruiner là-bas, faire des trous de grosseur toilette Imperium dans leur portefeuille.
Ouais, puis c'est aussi le voyage pour se rendre là aussi, là, vu que c'est
pas
à côté.
Je pense que mon problème est à ce niveau-là. Encore, tant mieux. Fait que, écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais vous dire, ouvrez le bar à tarte aux pommes de Barbara, parce qu'on va parler aujourd'hui du barbare.
Bon, donc le barbare, la classe reconnue pour être fâchée. Dans toutes les éditions de Donjons & Dragons, je crois que le barbare, sa mécanique de base est de se fâcher en combat pour faire plus mal.
Le quote qu'on connaît tous de Critical Role, « I would like to rage, please ».
Exactement. ça n'a pas changé. Donc, la mécanique de base reste la même. En fait, les changements sont, je dirais, mineurs. Des fois, il y a un mot qui change dans le texte, qui change toute la phrase au complet.
Mais si j'ai jamais joué à Donjons et Dragons, un barbare, qu'est-ce que ça fait exactement?
En fait, c'est ce qui va spécialiser dans le combat et la force brute. Être capable d'encaisser des coups, mais de donner des taloches plus fortes encore. C'est son but, lui, c'est de faire du dégât.
Pas de défense, plus d'attaque.
Moins t'as de défense, plus t'as d'attaque.
La meilleure défense, c'est l'attaque.
Puis ça, exactement.
Ça se différencie du combattant, du fighter, comment exactement?
C'est généralement, tu vas généralement pas avoir d'armure parce que tu veux être plus que t'es léger, plus okay. Tu peux taper.
Là, on parle de Schwarzenegger, Conan ou.
Conan de Schwarzenegger, Xena la princesse guerrière qui est à peu près dans le même. Donc, pas trop armuré, mais qui vont avoir des muscles saillants et des épées encore plus saillantes. On peut penser à Berserk dans le manga Berserk aussi, qui tape pour taper et qui, s'il se prend des coups, c'est pas grave.
Donc, puis ça a changé dans la nouvelle édition, comme à peu près toutes les classes.
Oui, principalement, c'est sur la mécanique de Rage, les changements qu'ils ont eu. Il y a un des changements, je crois que c'est toutes les classes qui l'ont reçu, c'est quand tu fais un short rest. Donc, quand tu te reposes entre deux combats, tu regagnes une charge de rage pour être capable de rager un combat suivant. Non, mais ça,
donc,
je pense que
toutes les... Un heure de break, c'est assez pour te remettre sur le piton.
Pour te remettre dedans.
Parce que si je me trompe pas, une fois qu'il était ragé, il tombait Exhausted ou gagner un niveau de fatigue?
Il y avait Relentless d'une subclasse de barbare qui le faisait, elle ne le fait plus.
Okay.
Donc, t'es plus fatigué après. Là. C'est juste que tu les retiens. Maintenant, tu peux rester en rage 10 minutes au lieu de une, ce qui est quand même un gros changement. Et, grosso modo, la mécanique de rage, comment elle fonctionne, c'est tu vas rage et techniquement, tu rage pour un tour. Avant, pour pouvoir continuer à rage, il fallait que tu attaques ou que tu te fasses attaquer. C'était les deux méthodes là, pour continuer à rage. Ça a changé un petit peu. Maintenant, on a la possibilité d'utiliser juste un bonus action puis dire « J'aimerais continuer de rage, fait qu'on va dépenser mes bonus actions, mais pour continuer à rage. »
Si je ne me trompe pas, il n'y avait rien d'autre à faire avec ces bonus, le barbare, de toute façon.
Exactement. Ou, sinon, il y a la possibilité de continuer à rage si tu imposes un saving throw à ton ennemi. Donc, pas besoin de faire du dégât nécessairement si tu y fais faire un saving throw.
OK, fait que si tu essaies de l'immobiliser, par exemple...
Exactement.
Ça demande un saving throw de force, lui, il doit...
Exactement, et tu peux continuer à rage avec ça. Mais sinon, c'est juste un bonus action, puis on n'en parle plus. C'est donc vraiment facile de maintenir sa rage dans un combat, alors qu'avant, tu sais, si personne t'attaquait, puis que t'avais pas la possibilité d'attaquer personne...
T'étais forcé à, genre, attaquer le sol ou un arbre à côté.
Non, c'est spécifié que ça doit être un... ennemi.
Mm-hmm.
Donc, un faux. C'est pas, tu peux pas attaquer juste un arbre.
Voilà. C'est que c'était assez complexe.
Tu sortais de ta rage avec toutes les conséquences que ça entraîne.
Exactement. Le deuxième truc qu'on obtient, que je crois que c'est toutes les martial classes qui l'obtiennent, c'est le Weapon Mastery, qui est un nouveau truc dans cette édition-là où chaque weapon a un effet de mastery. Si tu maîtrises l'arme, eh bien, tu vas pouvoir faire un truc bonus quand tu attaques. Par exemple, la Battle Axe, donc la hache de guerre du barbare, bien là, le Mastery Cleave qui te permet d'attaquer un deuxième ennemi dans ton range après l'attaque. Mais pour ça, il faut que tu aies le Mastery du weapon. Donc, tu obtiens un Mastery niveau 1 et tu en obtiens d'autres plus tard.
Ça, c'est une bonus ou ça remplace ton attaque?
Ah, non, c'est juste, ça arrive en plus de...
Un effet bonus pour ton attaque.
Ouais. Fait que, puis les mécaniques, il faut aller regarder les mastery, qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est juste un effet bonus sur ton attaque que t'as,
Tu choisis une arme en particulier ou une famille d'armes?
C'est des armes en particulier. Tu commences avec 2 et tu termines avec 4.
Okay.
Donc, tu as quand même beaucoup de versatilité. Là,
En tant que maître de jeu, si je veux être chien, je te donne une arme magique que t'as pas de mastery dedans.
Exactement. Mais ça, je crois que toutes les martial arts vont avoir cette nouvelle propriété-là, parce que c'est une nouvelle mécanique de l'édition.
Fait que t'es en train de dire que ton barbare est rendu OP?
Non, mais c'est parce que toutes les autres vont probablement l'avoir, donc. Puis je présume que le fighter va en avoir plus.
Mm-hmm.
Parce que le fighter est spécialiste dans les armes, justement. Mais ça va t'avoir dans le fighter. Un autre truc que le barbare était connu, c'est son sens du danger. Typiquement, quand il voyait que quelque chose était anormal, eh bien, il y avait avantage sur tes jets de dex s'il pouvait voir ce qui arrivait. Eh bien, maintenant, tu as juste avantage sur tes jets de dex.
Point final.
Point final, juste si t'es inconscient, là, t'en as pas, mais généralement, quand t'es inconscient, t'as pas de jets de dex.
Les fireballs sont moins dangereuses pour toi.
Ben, tout est moins dangereux pour toi tant que ça, c'est un jet de dextérité. Là, c'est... Fireball, les pièges...
Il y avait aussi un autre changement au niveau de la rage, je pense, au sens de dire qu'avant, rage n'est que des mécaniques de combat. À présent, rage peut aussi être pertinent hors combat.
Oui, ça vient avec le Primal Knowledge, qui, en fait, te permet d'utiliser ta force quand tu rages pour faire des trucs, tu sais, comme rester subtil dans un... Tu sais, se cacher avec la force, ou bien percevoir des choses. Il y a l'intimidation, tu sais, qu'on avait dit que la plupart des maîtres de jeu home rule dans la 5e édition. C'est juste que là, ils l'ont rendu officiel dans les règles du barbare. Donc, c'est juste que tu dois être en rage pour faire ça. D'où la possibilité d'avoir une rage de 10 minutes et de pouvoir utiliser tes bonus actions pour la garder. Donc, tu peux l'utiliser hors combat maintenant. Ce n'est plus une mécanique uniquement tournée vers le combat. Je crois qu'on doit s'approcher de la pause. Hein,
Ben, c'est ça, on a encore une minute. Je ne sais pas si tu veux finir ou on part en pause.
Ben, en fait, je peux présenter un autre truc qui est ajouté. C'est ce qui s'appelle le Instinctive Pounce. Donc, quand tu actives ta rage, donc tu utilises ton bonus action pour activer ta rage, tu as la possibilité de te déplacer de la moitié de ton déplacement sur un tour.
C'est bon.
Sans utiliser ton déplacement.
Sans prendre de ton mouvement.
Donc, sur ton bonus action, tu rage. Et en plus, tu as une fois et demi ton mouvement ce tour-là. Ce qui est quand même bien là, en termes de pouvoir se placer.
Ton mouvement fait partie du bonus action ou il fait partie de l'action mouvement?
Il fait partie du bonus action, c'est quand tu rage, tu peux te déplacer de la moitié de ton mouvement. Okay.
Fait que tu peux faire ton mouvement, rage en bonus, finir de closer puis taper sur le...
Exactement.
Bon, fait que, écoute, on va poursuivre ça après la pause, c'est très intéressant. On revient dans quelques instants. De retour en onde avec un animateur qui a fait une petite crise d'allergie pendant la pause. Désolé de la voix. Et on poursuit avec Nathan qui nous parle des changements dans la classe de barbare.
Bon, donc pour le prochain changement, en fait, je vais devoir vous parler d'abord de Reckless Attack. Reckless Attack n'a pas changé, mais c'est la mécanique de « on oublie la défense pour attaquer plus fort ». Cette mécanique-là est en fait « tu obtiens avantage sur tes jets d'attaque ». Mais les ennemis ont avantage pour te toucher en retour. Donc, t'as plus de chances de faire des critiques, t'as plus de chances de réussir à toucher, mais les ennemis ont plus de chances à te toucher aussi. Et bien là, c'est ce qui m'amène à un concept qui s'appelle le Brutal Strike. Avant, Brutal Strike faisait juste ajouter des dégâts à tes attaques. Donc, 1d10 de dégâts à tes attaques. Et bien maintenant, une de la mécanique qui a changé, c'est tu dois utiliser Reckless Attack pour utiliser Brutal Strike. Et en fait... ça te donne le bonus d'attaque, mais ça te permet de faire un effet supplémentaire. Par exemple, Forceful Blow, qui permet de repousser l'ennemi de 15 pieds de toi. Donc, tu dois utiliser Reckless Attack, donc ça veut dire... Mais, ah oui, c'est vrai, tu dois utiliser Reckless Attack, mais tu n'as pas avantage à ton toucher.
Oh, tu n'as plus avantage.
Tu n'as plus avantage. Les ennemis ont toujours avantage pour te toucher, mais toi, tu ne l'as plus.
Okay.
Mais ça a des effets supplémentaires, et à différents niveaux, ces effets-là... soit augmente ou...
Donc, au lieu d'avoir avantage, tu fais plus de dégâts puis tu as des effets bonus.
Exactement. Okay. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est, et éventuellement, tu peux en utiliser deux effets au lieu de juste un. Non. Mais c'est réellement tu sacrifies ton avantage à l'attaque pour faire plus de trucs avec tes attaques. Ce qui est quand même... C'est pas vraiment un point fort, mais c'est pas vraiment un point... C'est comme...
C'est un beau rework.
C'est intéressant comme principe. Et là, maintenant, il y a le truc que le barbare est bien connu pour aussi, c'est son Relentless Rage. Relentless Rage, ce que ça fait, c'est si tu devrais tomber à 0 point de vie, tu dois lancer un jet de constitution, et si tu bats 10, avant, tu retombais à 1 HP, puis tu mourrais pas, tu pouvais continuer de te battre. Et en fait, à toutes les fois que tu recommences, la difficulté du jet augmente. Et bien maintenant, au lieu de retourner à 1 HP quand tu fais ça, tu retournes à un nombre de points de vie égal à deux fois ton niveau de barbare.
Et considérant que tu obtiens cette habilité-là au niveau...
11.
Donc tu remontes à 22 à toutes les fois.
Ouais, minimum. Niveau 20, tu remontes à 40 points de vie. Ce qui est quand même fort, je dirais. Là. Avant, parce que avant, vu que tu remontais à 1, à toutes les fois que tu te faisais toucher, il fallait que tu relances, puis c'était... Là, ça, tu retournes. Si tu retournes à 40, 40, ça peut être long à descendre aussi. Là.
Ouais.
Et le dernier, en fait, le dernier gros point de changement, c'est Persistent Rage. Avant, Persistent Rage faisait juste que tu n'avais plus besoin de respecter les conditions de Rage pour continuer à Rage. Mais là, en plus de ça, il rajoute que quand tu roules ton initiative, tu peux décider de regagner tous tes points de Rage journaliers. C'est une fois par jour, tu peux dire « J'ai plus de points de Rage, je les regagne tous en début de combat. » Ce qui... facilite le action economy et le management de ressources. Mais en même temps, le but des ressources est de faire en sorte que tu dois faire attention puis de les utiliser intelligemment.
Et ça, je pense que c'est un autre point récurrent de 5.5 qu'ils ont beaucoup facilité la gestion des ressources en disant que si tu n'as plus rien, tu les regagnes au début de chaque combat pour pas mal toutes les classes.
Oui, c'est ça. Mmh. Finalement, un autre point aussi, c'est que toutes les classes vont l'avoir, par contre, c'est l'obtention d'un Epic Boon. Étant donné que les mécaniques maintenant te font prendre des feats et compagnie, eh bien, niveau 19, tout le monde va avoir accès à un Epic Boon. Ça, c'est réellement juste pour suivre les nouvelles règles globales de l'édition. En ce qui concerne les subclasses, il y en a 4 de disponibles dans le manuel. Donc, Berserker, dans lequel je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on n'aura pas le temps sinon dans l'émission. Wild Art, qui est juste un renom du... Totem. Path of the World 3, qui est complètement nouveau et qui permet en fait te lie à l'arbre monde Yggdrasil. et qui te fait gagner des points de vie temporaires quand tu rage, te permet de donner des points de vie temporaires à tes alliés. Donc, c'est plus une classe de barbare support.
Okay.
Ce qui est quand même assez spécial. Et ils ont pris le Zealot Barbarian du Xanathar Guides to Everything qu'ils ont ajouté dans le livre de base. Donc, au lieu de deux classes, dans deux subclasses dans le livre de base, on en a quatre. Et ces changements-là, comme je vous dis, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir lire sur ces changements-là au club. On a le livre au club, donc vous pouvez venir voir par vous-même, mais je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans les détails de chaque classe parce que ça serait trop long.
Merci Nathan. On va aller vite. C'est l'heure du garage avec Hugo. Hugo, tu nous parles de quoi cette semaine?
Cette semaine, je vous présente les stratégies en lien avec les worker placement. Donc, quand on parle de worker placement, on parle de tous les jeux où vous allez placer souvent des meeples ou des représentations de petits travailleurs sur le board. On parle de jeux comme Lords of Waterdeep, Tolkien, Dune Imperium, Agricola, le Swans of Arnak et bien d'autres, parce que c'est une mécanique extrêmement fréquente dans les jeux populaires sur BGG et en général.
Surtout les types euro, en fait, je dirais.
Surtout dans les types euro. Le principe de base, dans la grande, grande majorité de ces jeux-là, c'est que lorsque vous allez placer un worker, vous allez non seulement obtenir l'effet du lieu où vous l'avez déposé, mais par la suite, ce lieu-là ne sera plus accessible pour vos adversaires. Ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs stratégies qui découlent de cet effet-là. Tout d'abord, mais naturellement, vous allez être intéressé à prendre les lieux les plus contestés en premier. Si on parle, par exemple, de Lost Ruins of Arnak, où vous avez besoin de boussoles pour aller débloquer les lieux suivants, eh bien, les lieux qui donnent des boussoles seront souvent beaucoup plus contestés que les lieux qui donnent d'autres effets moindres.
Généralement, les deux premiers joueurs vont aller chercher ça, puis ben, si t'es pas dans les deux premiers, ben,
c'est ça.
Base ta stratégie sur autre chose en espérant être capable de continuer.
Ce qui est justement le deuxième point, ne pas commencer une partie en ayant une stratégie fixe, parce que dépendamment de vous serez à quel moment dans le round, dépendamment de quelles actions il va vous rester au cours d'un round, parfois les objectifs que vous aviez ne seront pas toujours atteignables. Donc, tentez de garder une ou deux stratégies. Naturellement, il va falloir que vous connaissiez les jeux. Donc, les premières fois que vous allez y jouer, ce sera probablement plus difficile de vous repérer, de savoir quelles sont les stratégies viables, parce que tous les worker placement vont généralement avoir 3 à 4 stratégies pour gagner. Mais à partir du moment où vous allez commencer à jouer un peu, vous allez pouvoir voir c'est quoi les stratégies qui sont possibles. Ou encore, ben, demandez, si vous jouez autour de la table avec des personnes qui ont déjà joué, demandez-leur quelles sont les stratégies viables dans ce jeu-là.
Mais généralement, dans ce genre de jeu-là aussi, tu as certaines stratégies qui viennent à toi par des cartes que tu reçois ou par un pouvoir de personnage que tu peux obtenir. Puis finalement, ça t'ouvre cette stratégie-là qui devient beaucoup plus avantageuse au courant de la partie.
Mm-hmm, absolument. Si jamais votre stratégie principale au cours d'un round n'est pas disponible, on dit vous avez réussi dans les premiers rounds à aller chercher des boussoles quand on parle de Lost Ruins. Vous, votre but, c'est d'explorer. Mais rendu au round 3, d'autres personnes y sont arrivées avant vous, vous n'y avez plus accès. À ce moment-là, votre stratégie devrait être de vous rabattre sur ce qui donne des points. Donc, il va pratiquement toujours y avoir des actions qui, sans nécessairement donner beaucoup d'effets pour continuer la partie, pour améliorer votre engin, pour améliorer vos capacités à aller plus loin, va simplement vous donner quelques points de victoire et on passe au suivant. Ça reste une bonne stratégie d'aller chercher parce que à la fin de la partie, même si vous n'êtes pas allé chercher à toutes les fois les gros lieux qui donnent beaucoup d'effets puissants, mais que vous êtes juste allé chercher les petits lieux à point, ça se cumule quand même pour être un montant substantiel.
Donc, à défaut de mieux, se rabattre sur le pointage est quand même
valable. À défaut de mieux, se rabattre sur le pointage ou encore se rabattre sur bloquer vos adversaires, qui peut être une stratégie assez pertinente. Si vous voyez que votre stratégie est bloquée, mais que le joueur dominant, celui qui est en train de gagner la partie, vise quelque chose d'autre qui est encore accessible, qui vous, personnellement, vous aide un peu moins, mais vous savez, va énormément lui nuire, ça peut être pertinent d'aller chercher... d'aller chercher ces lieux-là pour les bloquer.
Ça crée beaucoup d'amitié, ça.
ça crée beaucoup d'amitié. Mais on
le,
pas,
le bon vieux cockblock.
Ouais, on joue pas à des worker placements pour se faire des amis. la dernière, l'autre point que je pourrais donner, c'est dans la plupart des jeux de worker placement, vous allez avoir l'option d'aller chercher plus de workers. Ce n'est pas tous les jeux qui le permettent. Il y en a certains qui ont des quantités de workers fixes. Mais si on parle, par exemple, de Dune Imperium, de Tolkien, de IPRE, qu'on parlait la semaine passée, de Lords of Waterdeep, dans certaines conditions particulières, il est possible d'aller chercher des workers supplémentaires. Et dans la grande, grande majorité des jeux de workers, surtout ceux qui ont des workers supplémentaires, plus de workers égale plus d'action. Donc, plus que vous avez d'action, plus que vous avez la possibilité de faire votre stratégie, plus que vous avez la possibilité d'aller chercher de points.
Il y a souvent aussi une stratégie d'aller chercher le token de premier joueur. Mm-hmm.
C'était ma dernière. Si quand on parle justement de dire vos choix d'options seront limités une fois que si vous êtes le dernier joueur, dans la grande majorité de ces jeux-là, soit le token de premier joueur va tourner à chaque round, soit il y aura une action qui permet d'aller chercher le token de premier joueur. Si vous êtes le dernier à choisir, à toutes les rounds, pour toute la partie, parce que vous n'êtes jamais allé chercher le token de premier joueur, il se peut que vous ayez moins de chances de gagner. C'est très fort possible. Vous êtes donc incité à aller chercher le token de premier joueur à quelques reprises dans la partie. Notez qu'à toutes les fois que vous utilisez votre worker pour aller chercher le token de premier joueur, c'est une action de moins que vous auriez pu faire pour aller chercher autre chose. Donc, quand on parle d'options, c'est une option qui est intéressante, mais si vous êtes le deuxième joueur dans un round, ça ne vaut pas nécessairement la peine de devenir premier. Donc, c'est à vous de réfléchir. Est-ce que ça vaut réellement la peine? Est-ce qu'au prochain round, je dois être premier pour que ma stratégie fonctionne? Finalement,
ça nécessite aussi de se projeter dans le futur. Là.
C'est ça.
Pas juste préparer ce round-là, mais préparer le round suivant aussi.
Finalement, vous allez avoir deux types d'actions généralement dans les worker placement. Et quand on parle justement de se projeter dans le futur, c'est un peu de ça qu'on parle. Vous allez souvent avoir l'option soit d'aller chercher des bonus immédiats, d'aller chercher quelque chose qui va vous donner des points de victoire sur le coup et sans plus, qui est bon, qui est très correct, c'est justement c'est à force d'accumuler ces points-là que vous allez gagner la partie, ou encore d'aller chercher des ressources qui vous permettent d'aller faire une action qui vous en donne encore plus. Donc, ce sera à vous de déterminer dans quel moment vous allez vouloir avoir un peu plus de tempo, donc vouloir préparer des actions futures plus fortes versus aller chercher des actions immédiates. Et c'est là que être dans les premier, deuxième joueur qui joue autour d'un round vous donne plus de chances d'avoir accès au lieu qui vous donne le tempo et par la suite d'avoir accès au lieu que vous allez avoir besoin d'aller par la suite avec le tempo que vous avez obtenu.
Mais si je peux me permettre, souvent c'est une erreur que les joueurs y font, c'est d'aller chercher des ressources pour se faire une genre de machine pour faire beaucoup de points, mais ils arrivent en fin de game puis ils n'ont pas commencé à faire tant de points que ça, puis finalement ils sont pas capables de rattraper le retard. Fait que c'est souvent une erreur que les joueurs y font.
Trop de temps à faire le moteur.
Passer trop de temps contre un moteur est effectivement très dangereux. Donc quand on fait du tempo, c'est préparez pas 14 tours d'avance, préparez 1 à 2.
Il va falloir
c'est pas mal tout pour ma chronique.
Il va falloir aller à la pause, ça tombe bien. Mm-hmm. On va revenir dans quelques minutes avec la présentation de Twilight Imperium. On est de retour en onde à Ludo Radio, votre heure d'informations sur jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Cette semaine, notre gros sujet, c'est de parler du jeu Twilight Imperium. C'est pour ça qu'on a invité notre ami Hugo. Je fais une...
P.O.
Hey boy. Bravo.
T'avais une chance, tu l'as raté.
Ouais. Bon. Alors, introduction rapide de Twilight Imperium. Twilight Imperium, c'est un extrêmement gros jeu qui est 5e sur BGG, qui est très lourd en termes de règlement, mais qui n'est pas si pire que ça parce que il n'y a pas tant de mécaniques à apprendre. Il faut juste comprendre qu'est-ce qu'on fait. Essentiellement, c'est un jeu, on appelle ça un 4X, c'est un jeu de recherche, exploration, expansion et extermination. Hein? J'ai pris R en recherche parce que, en début, parce que traduit pas bien, bien français. Vous, essentiellement, un jeu de 3 à 6, jusqu'à 8 si on a les expansions. Une surface de jeu complètement nouvelle
aléatoire,
à chaque fois.
Ouais, aléatoire, procédural, qu'on appelle.
Effectivement. Donc, et qui est déterminé par les joueurs au début. Les boys, voulez-vous continuer?
Ben, pour continuer sur les statistiques, sur BGG, on lui donne une cote de 8.6, ce qui est quand même très bien coté.
C'est solide.
Quand il y a une raison pour laquelle il est cinquième dans le ranking. La complexité, c'est 4.3 sur 5, donc c'est dans les jeux très complexes.
C'est surtout qu'il faut rester concentré un bon 6 heures pour jouer
mais
une partie.
C'est
non?
Ça, c'est surtout le 4 à 6 heures de jeu. Donc, aussi long qu'une partie de Monopoly, c'est pas plus. Soyez
les bouts vraiment croquants, je vous dirais, ça vient pas tant du jeu de base que de savoir qu'est-ce que chaque personne autour de la table joue et c'est quoi ses pouvoirs à lui.
Ouais. Ouais. Mais parlant de pouvoir, en début de partie, on choisit une race qui va vous donner des effets, des pouvoirs, des vaisseaux spéciaux, une planète base, ta planète chez vous, ça faut que tu l'ailles pour être capable de commencer à coloniser. Et tout ça, chaque race, chaque faction a des spécialités. Il y en a un qui va plus être au niveau du commerce, il y en a un qui va plus être spécialisé au niveau du combat. Et c'est de savoir ce que chaque race autour de la table fait pour être capable de prendre une stratégie. Quel joueur veux-tu être, que ce soit tes alliés? Quel joueur veux-tu antagoniser? Est-ce que tu veux antagoniser des gens ou tu veux juste te concentrer sur ta petite recherche et ton...
Mais le setup, c'est toute une histoire aussi.
Comment est-ce qu'on setup?
Oui, c'est ça. Dans le fond, le setup, c'est une partie qui peut être quand même assez longue et assez compliquée des fois quand tu la première fois que tu joues à ce jeu-là. Mais ce qui est vraiment fun, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire le setup dans ce jeu-là. Soit tu peux prendre une map de base déjà préfaite, puis tout le monde choisit une faction à partir de là. Il y a moyen de faire un drafting ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, c'est plus facilité, puis les maps sont équilibrées. Mais si tu veux vraiment avoir quelque chose de plus, un peu plus procédural ou un peu plus aléatoire, il y a une autre méthode qui permet aussi présentement de... Chaque joueur prend des tuiles dans ses mains, qui sont des tuiles pour le jeu, et on va les placer à tour de rôle autour du centre de la galaxie, juste à temps qu'on construise la galaxie ensemble. Le seul problème qui vient avec ça, par exemple, c'est que non seulement c'est long à faire, mais en plus de ça, il y a certains joueurs qui peuvent être complètement bloqués par des joueurs qui veulent être malveillants avec eux autres, puis des joueurs qui veulent se protéger de certains autres joueurs.
Donc mettre des lieux vides ou qui donnent pratiquement pas de ressources proches du lieu où les parties vont commencer.
Parce que dans le fond, il y a trois sortes de tuiles. Il y a des tuiles sur lesquelles il y a des planètes, donc des ressources. Il y a des tuiles juste vides. Puis il y a des tuiles où il y a
des anomalies
qui sont soit impassables ou passables, dépendamment de l'anomalie.
C'est ça, effectivement. Puis généralement, de faire la map de cette façon-là, j'ai joué plusieurs parties de Twilight Imperium dans le passé. Et cette façon de faire, on a eu quelques problèmes avec ça, justement, par le fait que certains joueurs étaient bloqués, puis certains joueurs étaient plus avantagés selon comment on construisait les parties. Donc, on a fini par trouver un moyen d'accélérer beaucoup les choses quand on commençait ça avec un site Internet qui s'appelle MultiDraft. Puis ça nous a vraiment aidé à accélérer le début des parties, puis à vraiment faciliter autant pour les vétérans que les nouveaux à se préparer à cette partie-là. Dans le fond, ça veut dire qu'une semaine avant, nous autres, on ouvre un multidraft et là-dessus, on est capable de générer la map, générer des factions aléatoires et générer aussi l'ordre de jeu. Et à ce moment-là, chacun des joueurs peut avoir le lien et aller choisir, dans le fond, à tour de rond, on va choisir nos slices, c'est-à-dire les planètes qui sont en avant de nous autres, qui sont généralement celles qu'on va avoir pendant la partie. Notre faction ainsi que l'ordre de jeu. Mais c'est vraiment, ça l'ouvre un côté un peu plus stratégique à la façon que tu choisis tes choses parce que tu as le choix soit de choisir en premier ta faction, ta slice ou l'ordre de jeu. Et après ça, c'est au prochain joueur. Fait que peut-être que toi, tu n'auras pas la slice que tu veux avec la faction que tu veux ou peut-être que tu n'auras pas l'ordre de jeu qui viendra avec. Fait qu'à ce moment-là, il faut vraiment être plus stratégique dans la façon que tu choisis tes choses.
Quand tu parles d'une slice, tu dis que bon, toi, ton cadran, on sait que ça va être une partie, mettons, à 6 joueurs. Fait que là, ton cadran, ton sixième du board, c'est un choix entre celle-là, puis ça, c'est aléatoire.
C'est ça. Ces slices-là sont générés de façon aléatoire, fait qu'il peut en avoir des meilleures, des moins bonnes, mais s'il y en a une très, très bonne, ben, généralement, elle va être choisie en premier par le premier joueur qui a le choix. Mais à ce moment-là, ce joueur-là, il va venir... la prochaine fois, c'est son tour. C'est une fois qu'on a fait le tour complet des joueurs dans un sens. Après ça, on refait la même chose dans l'autre sens, fait qu'il va avoir vraiment... dans très longtemps, il va avoir un deuxième choix. Fait que s'il choisit cette slice-là, il n'y aura pas le choix.
Le dernier joueur à choisir sa slice, c'est le premier joueur à choisir la prochaine étape qui est... sa race, j'imagine.
C'est ça, effectivement.
On note que c'est un plateau de style hexagonal. Les joueurs sont sur les extrémités. Cependant, au centre, peu importe ce qui va se passer, il va toujours y avoir un élément en plein centre de la map.
Imperium Rex?
Mécatorix.
Qu'est-ce que c'est? À quoi?
Dans le fond, Mécatorix, c'est le centre de la galaxie. Et cet endroit-là, dans le lore du jeu, c'est l'endroit où il y avait le siège du gouvernement qui gouvernait l'ensemble de la galaxie dans le passé. Et dans le fond, ce centre de la galaxie-là vaut énormément, peut donner énormément de points pour gagner la partie, mais est aussi très difficile à conserver, étant donné que tous les joueurs se battent pour peut-être l'avoir, peut-être la conserver, peut-être faire quelques points dessus.
C'est un jeu où il y a un effet piranha. Là, hein? Si je saute sur celui de gauche...
Celui de droite peut te sauter
celui
dessus.
Celui à ma droite peut me sauter dessus, mais là, celui à sa droite va y sauter dessus.
C'est ça. Ben, ce qui est le fun avec le jeu de Twilight Imperium, c'est que justement, c'est pas un jeu où tu vas nécessairement, comme d'autres jeux, te construire un gros engin de guerre et aller taper sur tout le monde puis être le plus puissant. Si tu essaies de faire ça, tu vas voir, tu vas te ramasser avec quelques taloches sur la gueule assez rapidement. C'est un jeu où il faut vraiment jouer de manière à ce que tu te fasses des bons alliés, que tu te fasses pas trop d'ennemis, puis que tu passes en dessous du radar pour faire tes points à la fin de la partie. Si tu parviens à devenir trop puissant et faire trop de points au début de la partie, il va rapidement avoir d'autres joueurs qui vont être là pour te rabaisser après.
C'est un peu un jeu de la tortue.
Ben, c'est ça. Ben, c'est un jeu où c'est qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'aspects de négociation. La négociation est très, très présente dans le jeu. C'est très, justement, faire croire que t'es pas dangereux, montrer à l'autre que t'es ouvert à avoir des bons deals avec lui, alors que ton deal, c'est vraiment de la merde. C'est pour ça que ce jeu-là est vraiment le fun, par sa complexité en tant que telle sur le board, mais aussi sa complexité que tu peux avoir entre les joueurs autour de la table. Certaines dynamiques peuvent se créer entre les joueurs qui peuvent tout le temps se taper dessus, peu importe la game, ou d'autres qui font tout le temps les alliances. Donc...
Contrairement à d'autres jeux de Wargame, ce Twilight Imperium ne sera pas nécessairement gagné lorsque un joueur a vaincu tous les autres joueurs, que tous les autres sont éliminés. C'est une possibilité, mais c'est quoi les autres manières de gagner, puis comment on fait pour obtenir ça?
En fait, une partie ordinaire de Twilight Imperium se finit quand un joueur atteint 10 points de victoire. Exactement quand un joueur atteint 10 points de victoire, la partie est finie. Le moyen d'avoir ces points-là, c'est avec des objectifs qui vont être présents sur la table, qu'on va révéler au fur et à mesure de la partie, qui vont donner un certain nombre de points, ou des objectifs secrets que tu peux avoir dans ta main que les autres joueurs ne sont pas au courant, des objectifs que tu vas avoir à faire soit sur le board, soit en payant certaines choses, soit en construisant certains bâtiments.
Ça me donne un bon segue pour parler de comment un round ça va fonctionner. Une fois qu'on a fini de setuper notre jeu, on commence. La première action que tous les joueurs vont faire, c'est en ordre de jeu qui a été prédéterminé. Ils vont aller sélectionner une tuile qui est numérotée de 1 à 8. Chaque tuile va donner un pouvoir particulier à ce joueur-là pour se rendre là. Une fois qu'on a ramassé nos tuiles, les tuiles sont numérotées de 1 à 8, donc ça devient l'ordre de jeu. On se met à jouer. Généralement, on a une action. Une action, ça peut consister à soit utiliser le pouvoir qu'il y a sur notre tuile, ça peut consister à activer une zone sur la carte. Dans le fond, on prend un token qu'on a dans notre command pool, on le dépose sur la tuile, et là, c'est la tuile activée. Et là, on peut envoyer des vaisseaux dans cette tuile-là. Ça pourrait peut-être créer un combat si on active la tuile d'un voisin puis on envoie notre flotte. On règle les combats. Puis, dans le fond, y a-t-il une troisième type d'action?
Quand tu actives une tuile, ça peut également servir à construire ta flotte,
effectivement.
Des unités. Donc te permettre de bâtir ton empire, en fait.
Dans l'action phase. Donc, une fois que la stratégie phase est faite, que tout le monde a sélectionné son ordre de jeu, tu vas avoir trois actions possibles lors de l'action phase. Tu vas soit faire un command action, un strategy action.
La stratégie, c'est la tuile. Command, c'est activer la tuile personnalisée. C'est activer une zone. Le troisième, c'est...
J'imagine tactiques.
Que c'est ça, les actions tactiques, c'est ça.
Voilà.
Tactiques, c'est eux autres qui permettent de faire des combats, je présume. Non, c'est faux. C'est des actions spéciales sur tes...
C'est des actions particulières de ta classe.
En fait, tu as des actions sur ta classe. Tu as des actions que tu peux faire justement avec les technologies que tu vas rechercher dans la partie ou avec celles que tu vas commencer avec. Ou tu as des actions que tu vas faire sur le board en plaçant une tuile sur le board et en déplaçant tes flottes ou en attaquant.
Et là, si j'ai activé ma tuile sur mon world, puis je bâtis ma flotte, je peux pas l'utiliser ce round-là. Sauf exception, il y a des petites cartes, des fois des petites cartes d'action.
Il y a des cartes d'action là, qui permettent
de... On dit, tu peux enlever le token. Il y a une tuile qui permet ça aussi, qui est pas logistique, c'est Warfare.
C'est Warfare. C'est ça. Parce que dans le fond, avant qu'on commence la partie où on se tape tout sur la gueule, à chaque début du round, on va choisir chacun une des 8 tuiles disponibles sur la table, numérotées de 1 à 8, qui correspondent à l'ordre de jeu que chacun va jouer. Donc, celui qui a la tuile numéro 1, c'est ça. Il commence avec la strategy card, la numéro 1, fait que c'est lui qui joue en premier. Après ça, celui qui a la 2, la 3. Des fois, ils seront pas tous choisis. Certainement, si on est une partie à 5 ou 6, puis s'il y en a 8, il y en a certains qui seront pas choisis. Mais chacune de ces strategy cards, non seulement détermine ton ordre de jeu, mais aussi une action particulière que tu peux faire pendant la round de jeu, qui peut te permettre soit d'avoir plus de command tokens, qui te permettent de... après ça, aller activer des systèmes pour attaquer ou d'autres qui permettent de rechercher des technologies ou faire des points sur Mechatol, le centre de la galaxie aussi.
Donc, quand on arrive...
on va aller faire notre petite pause là. C'est vrai. Puis on va conclure avec Twilight Imperium au retour. On est de retour en ondes à Ludo Radio où aujourd'hui on vous parle de Twilight Imperium. Donc, avant la pause, on vous a expliqué essentiellement les trois actions qu'on peut faire dans la phase
d'action.
Action. Mais une fois qu'on a fini, puis plus personne ne peut jouer, il se passe quand même d'autres choses. Mm-hmm.
Pour la phase d'action, on avait parlé des command tokens. À tour de rôle, tout le monde fait une action, donc on va dépenser un command token, on va activer un effet de ses lieux, puis passe au suivant. Jusqu'à ce que tout le monde ait dépensé autant de command tokens qu'il le souhaite, qu'ils en aient plus, qu'ils ne souhaitent plus faire d'action.
Ça, t'es pas obligé de vider ton pool de command tokens, le command token de ton retour.
Il faut noter que quand on parlait de la stratégie phase, tout le monde prenait une tuile. Ces tuiles-là ont la particularité de quand le joueur qui l'utilise l'active, le joueur qui l'utilise a un bonus principal, mais que tous les joueurs ont un bonus secondaire qui s'active en même temps par la suite.
En fait, c'est un bonus que les autres joueurs peuvent payer pour utiliser. Il faut que tu payes un token dans ta strategy pool pour pouvoir utiliser un des tokens que tu as. Donc, ça coûte quelque chose, mais ça peut être des bons avantages justement d'avoir ça.
Donc, voilà, tout le monde fait ses actions jusqu'à ce que tout le monde ait passé. Si tu passes, point notable, tu peux quand même payer, une fois que tu as passé, tu peux quand même payer pour activer les effets secondaires des autres joueurs. La partie continue jusqu'à ce que tout le monde ait passé.
C'est sûr, une bonne stratégie d'attendre d'utiliser justement ton truc pour que les gens, au plus possible, passent leur command token. Là.
Voilà. Et on tombe dans la status phase. Status phase qui va être la phase générale de comptabilité de points de victoire et de reset le board. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez scorer les objectifs publics, que vous allez scorer vos objectifs secrets si jamais vous en aviez, que vous allez recréer votre pool de command token, que vous allez piocher des cartes pour le prochain round et vous y préparer. Et à un certain moment dans la partie, il va y avoir une quatrième phase, la phase d'agenda.
Ouais, il y a un moment donné dans la partie, un malade qui va avoir conquis Mechatol-Rex.
Effectivement. Une fois que quelqu'un a conquis Mechatol-Rex, à chaque fin de round, il va y avoir deux agendas qui vont être révélés. Des agendas, c'est essentiellement des votes qu'on va faire au Parlement sur Mechatol-Rex. Une fois que quelqu'un a conquis Mechatol, ben maintenant, on recommence à faire de la politique, on recommence à faire des votes.
C'est la phase où le monde jase ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on fait.
C'est ça, effectivement, parce que c'est des cartes qui vont être déterminées au hasard, effectivement. Il y a moyen de savoir c'est lesquelles avec certains pouvoirs, mais en général, on ne sait pas c'est quoi qui va sortir. Et il peut y avoir des choses qui vont être très avantageuses pour certains joueurs, très désavantageuses pour d'autres.
Il y a des effets globaux, il y a des lois qui vont altérer les règles de la partie pour le restant de la partie.
C'est soit une directive ou une loi. J'ai des exemples ici.
Ouais.
Directive, élise un joueur. Le joueur élu prend un objectif secret. Ça, c'est... Puis il y en a un petit peu plus...
C'est un petit peu plus crunchy,
un petit peu plus crunchy. Loi, voyage banni. Donc, le wormhole alpha et bêta n'ont aucun effet. Détruire... ça, c'est si on vote pour, si on vote contre. Détruire chacun un PDS dans un système adjacent à un système qui a un wormhole, ouais. Un trou de ver.
Généralement, les lois qui ont des gros effets sur la partie, si elles ne sont pas acceptées, vont avoir quand même des pas pires malus pour les joueurs. C'est comme...
C'est pas avantageux pour moi si on le défait, mais en même temps, j'ai pas le goût de perdre j'ai pas le goût de perdre la moitié de mes troupes pour avoir refusé.
Des fois, on a deux choix mauvais. Là.
Mais des fois aussi, les joueurs peuvent s'abstenir de voter parce que les effets peuvent s'appliquer pour seulement les joueurs qui ont voté pour ou contre quelquefois. Donc, certains joueurs peuvent juste s'abstenir et attendre le prochain agenda pour avoir tout leur pouvoir politique pour voter pour le prochain agenda.
Point notable, justement, pour le pouvoir politique, ce n'est pas tout le monde qui va avoir la même force dans les votes. Parce que pour voter, il faut que tu aies des planètes qui ont de l'influence.
Effectivement.
Et ça m'amène à comment, au niveau crunchy, comment ça fonctionne. Chaque planète que vous allez prendre, il y a deux chiffres. Il y a un chiffre pour les ressources de la planète, puis il y a un chiffre pour l'influence de la planète. Et si on dépense la planète, on a utilisé soit un, soit l'autre. On ne peut pas utiliser les deux. Donc, les ressources vont vous permettre de créer des flottes, d'activer des pouvoirs. Souvent, la fonction secondaire de recherche se paye avec ça. Mais si vous utilisez l'influence, ben là, l'influence est pas mal juste utilisée, si je ne me trompe pas, dans cette circonstance.
Oui, ouais, ouais, l'influence est uniquement pour l'agenda.
Il y a certaines fois qu'elle peut être utilisée ailleurs, mais très utilisée pour ça.
C'est l'exception plutôt que la règle. Je dirais que l'influence est pour l'agenda. C'est donc être capable de s'assurer d'avoir suffisamment de points d'influence pour être capable de travailler dans l'agenda, mais en même temps, tu as voulu construire, fait qu'il faut que tu aies utilisé tes planètes, c'est une grosse...
Ou s'en sacrer complètement.
Ouais,
parce
oui.
Parce qu'il y a des factions qui s'en sacrent, mais complètement.
Mais pour ça, il faut que tu aies la faction. Fait que je te dirais que généralement, il faut que tu gères un peu tes... Tu as quand même beaucoup de gestion à faire de... Je dirais de la micro-gestion, savoir qu'est-ce que tu utilises quand. Puis...
Je pense qu'il y aurait une dernière section à discuter de combat. Donc, dire ça reste un wargame après tout. Donc, éventuellement, au cours de la partie, vous allez vous battre pour Mechatalrex. Vous allez vouloir conquérir les plans des autres pour avoir plus de force, plus d'influence, plus de ressources.
Avec nos amis, les dés.
Oui, les dés. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez un arbre de Noël d'unités que vous pouvez construire. Il y en a qui ne sont pas disponibles au début. Il y en a qui sont des mainstays, des chevaux de bataille, etc. Mais vous avez un maximum d'unités que vous pouvez envoyer dans un système qui est géré par un de vos trois pôles de commandement, qui est...
Le fleet pool.
Donc, si vous avez quatre tokens là, ben vous pouvez avoir quatre vaisseaux qui comptent dans la fleet. Il y a des vaisseaux qui ne comptent pas dans la fleet. Si vous en avez six, ben vous pouvez en avoir six. Si vous en avez six là, vous avez fait un choix d'en prendre ailleurs puis de le mettre là. Fait que c'est pas nécessairement bon d'avoir une trop grosse flotte. Alors, c'est pour ça qu'avoir des meilleurs vaisseaux, ça vaut la peine. Il y a des vaisseaux qui peuvent subir un avarie. Il y a des vaisseaux qui peuvent subir deux avaries. Et dans le fond, ce qu'on fait, l'attaqueur met ses vaisseaux. Il lance des D10 pour chaque vaisseau. Les vaisseaux, en fonction du modèle, ils touchent. Il y en a qui touchent à 4 et plus. Il y en a qui touchent à 7 et plus.
Il y en a même qui touchent à 9.
Il y en a qui touchent juste à 9. Mais eux autres ne comptent pas dans la fleet. Tu penses que c'est les fighters?
C'est les fighters. Ils ne comptent pas dans la fleet, mais ils touchent sur 9 et 10.
C'est des trop petits vaisseaux.
À la fin du combat, ça prend une place pour les poser, les petits fighters. Donc, l'attaqueur attaque, le défenseur va choisir où il subit ses pertes. Le défenseur va lancer pour tous ses vaisseaux, y compris ceux qu'il a perdus.
Une contre-attaque.
Une contre-attaque, essentiellement. Ensuite, ben, l'attaqueur va perdre s'il y a des vaisseaux qui ont été touchés. On enlève tout, on décide...
Et un peu comme à risque, on choisit de continuer le combat.
C'est ça. Si on décide de ne pas continuer le côté qui part en retraite, n'a pas d'attaque, mais l'autre côté peut quand même...
En général, il y a des certaines façons de pouvoir attaquer, mais en général, quand tu déclares une retreat, ce qui va se passer, c'est que tu la déclares à la fin du combat. Donc, peu importe ce qui se passe dans la prochaine round de combat, toi, tu vas retreat. Même si tu as gagné, même si tu as détruit son autre flotte au complet, tu vas quand même retreat parce que tu as pris une décision d'envoyer l'ordre de retreat. Mais il y a quand même une dernière attaque qui se passe avant de pouvoir retreat.
Mais tu peux contre-attaquer dans ta retreat. Est-ce
que le côté qui retraite attaque quand même?
Oui, mais dans le fond, ce qui se passe, c'est que tu annonces la retreat au début du combat. Tu annonces, il y a un combat qui arrive, le défenseur de l'attaquant annonce s'il va retreat ou non. Il se passe un combat, puis à la fin de ce combat-là,
Il se passe un round
de combat, c'est ça. Effectivement.
Okay. Fait que c'est ça. Dans le gros, fait que là, c'est plus généralement, très peu de combats au début de partie, beaucoup à la fin.
Ouais, mais ça, on commence la partie loin de tout le monde, donc il faut commencer par aller conquérir les planètes voisines vides avant.
C'est ce qui est bien, en fait, avec la façon que le board est fait, étant donné que tu commences safe. Tant que t'es pas en train de te battre pour Mechatalrex ou que ton voisin commence pas à être un peu gros, tu sais, 4, 5, 6, 8 rounds avant d'avoir un. Avant de peut-être devoir te battre. Fait que tu peux réussir à le planifier. Mais encore une fois, c'est. Faut que tu le planifies. Fait qu'il faut que tu doutes que dans 6 rounds, ça se peut que le combat commence. Fait qu'est-ce que tu es capable de planifier 6 rounds à l'avance?
C'est ça. Puis éventuellement, tu vas te rendre compte aussi que dans ce jeu-là, tu peux avoir des parties selon les factions qu'il y a, selon ce qui se passe sur le board. Des fois, c'est un peu une guerre froide. Tout le monde bâtit une grosse lotte. Puis si quelqu'un attaque quelqu'un d'autre, à ce moment-là, t'es sûr de perdre parce que les autres vont venir te manger derrière.
L'effet donc,
c'est ouais. Ça, effectivement. Donc, il y a certaines fois où c'est que c'est pas avantageux d'attaquer personne puis de juste essayer d'être le plus démonstratif de puissance pour éviter de te faire attaquer toi-même. Et à ce moment-là, ben, tout le monde est un peu bloqué dans son coin à pas pouvoir attaquer. Et d'autres games où t'as des factions qui sont juste, ils veulent manger tout le monde puis ça attaque partout puis ça se tire partout.
Ouais, ben qui ont des bonus parce qu'ils ont des bonus quand ils sont en combat, donc eux c'est avantageux d'être en combat tout le temps. Mais c'est sûr qu'il y a quelques rounds où tu pourras pas être en combat parce que ben les gens sont juste trop loin là, mais
donc P.O., pourquoi tu aimes ce jeu?
Ben, j'aime beaucoup ce jeu-là. Ben, non seulement j'aime beaucoup les jeux aussi qu'il y a de la complexité, mais c'est pas juste ça. C'est vraiment comme j'expliquais au début, il y a l'aspect aussi négociation, l'aspect aussi que ça dépend des joueurs qui sont à la table, qu'est-ce qui va se passer sur le jeu. Je te dirais la moitié de la game va se jouer dans la négociation que tu fais, puis comment tu es capable de.
Donc un jeu avec quand même énormément d'interactions entre les joueurs.
Effectivement, c'est ça qui prend le plus de temps aussi. C'est pour ça que des fois on essaie d'accélérer les trades que les joueurs veulent se faire, justement les menaces que certains joueurs vont en faire sur d'autres. Mais c'est vraiment de. C'est un jeu où c'est tu veux démontrer ta puissance, mais en même temps pas trop, parce que sinon tout le monde. Si tout le monde se met ensemble contre toi, t'es sûr de perdre, t'es sûr de pas réussir. Fait que c'est vraiment de sortir cette puissance-là au bon moment et en attendant d'avoir l'air très gentil puis de vouloir faire des amis.
Hugo me fait des gros yeux, là, fois, parce que...
Des fois, il y a des alliances à 4 contre 2. Hein? Ouais. Hugo est dans le 2 ouais. Parce qu'il nous a trop fait chier le game d'avant.
En fait, c'est ça. Moi, de ce que je retiens, en fait, c'est essayer de varier les gens avec qui vous jouez. Parce que si vous jouez tout le temps avec le même monde, vous allez savoir qui est dangereux. Et ben, cette personne-là va commencer avec un désavantage assez subséquent, étant donné que tout le monde a une target, puis c'est lui. Ou elle, je dis lui, mais ouais. J'ai un exemple en avant de moi, mais c'est juste essayer de varier les gens avec qui vous jouez.
Voilà. Hey, ça va être tout pour l'émission cette semaine. Merci les boys.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
On a, la semaine prochaine, on va prendre une petite pause parce que ben, l'animateur est en vacances, puis il faut profiter autant que possible de ses vacances. On va vous revenir à la semaine de relâche. Hein,
oui. Ça va les boss? Oui. Non, mais semaine de relâche, mon mercredi, je suis en stage, donc je ne suis pas disponible. Donc, et Hugo est probablement en stage aussi.
Deux petites semaines de congé et on va se reprendre au retour.
Deux semaines de congé, on se reprend, dans le fond, au retour, au retour de la semaine de relâche. Puis, ben, de. Ouais, c'est
la semaine de lecture. La semaine de relâche est en mai.
J'essaierai de timer mieux mes vacances l'année prochaine, c'est pas de ma faute. C'est l'élection de grâce cette semaine. Sur ce, ben, on va vous souhaiter un bon 2 semaines, puis on vous revoit au retour. À la prochaine, tout le monde.
À la prochaine.
Salut.